Directeur de collection aux éditions L'Armatan Paris et professeur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, le professeur Idi Tambwebin Kitoko est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Professeur Idi Tambwebin, soyez le bienvenu.
Merci.
Vous êtes directeur de collection à l'Armatan Paris, qui occupe le premier rang de l'édition française en nombre de titres, avec 2000 nouveaux titres par an, 6500 manuscrits reçus par an, 25032 titres au catalogue, 671 collections différentes et 1257 numéros parmi 126 revues. Pouvez-vous nous présenter cette institution?
Ben, je ne peux pas faire mieux que vous. Les éditions L'Armatan ont été créées en 1975 par Denis Prien, sujet français. Les éditions L'Armatan avaient d'abord une vocation, parce que le mot L'Armatan signifie un vent chaud qui vient de l'Afrique. Donc, dès le départ, il était question de ramener la chaleur africaine dans la grisaille parisienne. Donc, l'idée, c'était de désenclaver l'édition française qui n'avait pas beaucoup d'horizon. Les éditions L'Armatan se sont intéressées au savoir venu et produit par le monde entier, avec une priorité, bien sûr, l'Afrique qui nous concerne. Les éditions L'Armatan donc ont commencé par publier beaucoup les sciences humaines. À l'époque, c'était un domaine difficile à exploiter par les éditeurs français, surtout les sciences humaines porteurs des savoirs africains, des savoirs autres que le savoir européen. Ensuite, les éditions L'Armatan ont investi d'autres domaines éditoriaux comme la littérature, comme les livres généraux. Et aujourd'hui, grâce à une technologie de pointe, les éditions L'Armatan publient 8 livres par jour. Et devenu le premier éditeur en nombre de titres français et troisième européen.
À ce jour, L'Armatan est implanté dans combien de pays à peu près?
Donc il y a l'implantation concrète, comme celle que nous sommes en train de réaliser en ce moment, et puis il y a l'implantation indirecte au travers des librairies, au travers de partenaires locaux. On peut dire que L'Armatan se trouve dans une soixantaine de pays de manière indirecte, c'est-à-dire avec des gens qui représentent plus ou moins, avec des librairies qui font le relais, mais de manière complète. Les éditions L'Armatan ont à ces jours une quinzaine de représentations. Il y a L'Armatan en Italie, en Bulgarie, au Canada, en Belgique, au Cameroun, au Burkina Faso, en Mauritanie, en RDC. Nous sommes en train, Léon Matangila et moi-même, d'installer L'Armatan RDC. Il y aura aussi, là c'est à Kinshasa, mais il y aura aussi L'Armatan Lubumbashi avec Dikanga Kazadi. Il y aura aussi L'Armatan à Brazzaville avec Coline Makoso. Pour vous dire que L'Armatan, c'est tentaculaire.
Une grosse machine.
Voilà.
Quels sont les paramètres qui militent en faveur de l'implantation de L'Armatan en RDC?
Les facteurs sont simples. Aujourd'hui, notre pays, nous avons l'air tout petit. Nous sommes humiliés par ces petits pays. J'ai dit pays tant politiquement que géographiquement. Donc il n'y a aucune connotation péjorative dans mes mots. Nous sommes un pays qui est pourtant grand. Grand du point de vue des sciences humaines. Moi, je suis également professeur à Paris 7. J'ai enseigné au Canada. J'enseigne un mois par an à l'Université Senghor, l'Université de la Francophonie, à Alexandrie. Et je peux vous dire, quand on fait la sélection, quand on analyse les chercheurs africains, francophones, nous sommes parmi les meilleurs, sinon les meilleurs. Nous sommes en tout cas parmi les plus nombreux. Et donc, même à L'Armatan à Paris, quand L'Armatan publie 100 ouvrages sur l'Afrique, dans le domaine des sciences sociales ou de la littérature, il y a une très bonne part qui est produite par les Congolais, Congo, Kinshasa,
RDC.
Et donc, moi je travaille à Paris depuis 5 ans comme directeur des collections chez L'Armatan. Nous avons avec Léon Matangila qui travaillait pour nous sur place, moi à Paris, lui ici. Nous avons pu susciter une sorte d'effervescence forte en matière de production des livres. Ça bouge de partout. On publie beaucoup en ce moment. Et la réflexion était simple. Puisqu'on publie tant, mais avec des freins, parce que nous étions à Paris, il dit pourquoi ne pas, sur place, créer une structure locale qui ferait le travail de relais avec le bureau de Paris. C'est ça que nous faisons en ce moment, mettre en place une structure. Il ne s'agit pas ici seulement d'édition, ça dépasse l'édition. Il ne s'agit pas du livre, ça dépasse le livre. Il s'agit ici d'un enjeu politique. s'agit d'un enjeu de lobbying. Il s'agit de défendre ce pays parce que le pays n'est plus défendu sur le plan international. Comme vous le savez, nous sommes un maillon d'un réseau qui ferait partie d'un lobbying fort en faveur de notre pays dans le monde.
En ce qui concerne les différents domaines de publication, vous en parliez, l'Harmattan publie près de 28% de littérature, 11% d'histoire, 6% d'actualité sociale et politique. Que fait concrètement un directeur de collection?
Le directeur de collection est payé par l'éditeur pour faire le métier d'éditeur. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, en amont, il crée des concepts. Par exemple, là, moi j'ai créé un concept qui s'appelle Compte Rendu, qui a publié beaucoup de personnalités politiques. Récemment, Lambert Mende, j'ai publié Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Mahdi, enfin bref, une bonne partie de l'intelligentsia congolaise et une bonne partie de l'élite politique congolaise. Et ensuite, animer ces concepts-là, recevoir des manuscrits, les lire, c'est-à-dire les lire soi-même et organiser des comités de lecture. J'ai dans mon comité de lecture, par exemple à Paris, des gens aussi prestigieux que Paul Bouvier, Kéti Mbé, Gall, des grosses pointures de l'université, des grands écrivains, des grands chercheurs qui font partie de mon comité de lecture. Donc les directeurs des collections organisent des comités de lecture, reçoivent des manuscrits, les corrigent, valident ou pas. Donc je suis payé finalement pour dire oui ou non, ces manuscrits sont bons. Et quand c'est bon, j'envoie à la fabrication, où il y a des correcteurs, de metteurs en page, et ça, ça ne regarde plus. Donc moi, mon métier, c'est de dire oui ou non, mon manuscrit est bon. Et croyez-moi, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de considérations sur lesquelles...
Il faut prendre en compte.
Dans les détails desquels je ne voudrais pas rentrer.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Professeur Eddy Tambobin Kitoko, directeur de collection aux éditions L'Harmattan Paris et professeur Ali Fassik, nous parlions de l'implantation de L'Harmattan en RDC. Que répondez-vous à certaines personnes qui pensent que le Congolais ne lit pas?
Je dirais ceci, là c'est le professeur des communications qui répond. Il faut savoir que nous vivons dans une période marquée par la consommation de médias. Aujourd'hui, les sociétés n'existent que parce qu'elles s'organisent autour de la consommation de médias. Là, c'est la radio, il y a le journal, il y a la télévision qui est le média le plus populaire. Et chaque média a sa spécificité. Le livre, c'est un média élitiste. Et cette préoccupation que vous attribuez au public est mal fondée. Pourquoi ? Tout le monde ne peut pas consommer n'importe quel média. Chaque message a une spécificité. Chaque message ne peut pas être dit n'importe comment dans n'importe quel média. Le livre, c'est un média élitiste. Et donc, par définition, le livre n'est pas lu par beaucoup de gens. C'est normal. Moi, j'écris beaucoup de livres. Ma mère ne m'a jamais lu. Ça ne me dérange pas parce que c'est un média qui n'est pas accessible.
Qui s'adresse à une certaine
catégorie. Qui dit des choses... Donc voilà, il faut décomplexifier la question. Tout le monde ne lit pas non plus. Voilà, donc il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas s'attendre que tous les Congolais lisent. Non, les Congolais ont les niveaux qu'ils ont. Une personne sur deux ne sait pas écrire. Alors comment voulez-vous qu'ils lisent?
En rapport avec le prix des ouvrages, pensez-vous qu'il soit abordable pour le Congolais moyen?
Il est abordable pour le public que je viens de spécifier,
élitiste.
Oui, enfin, écoutez, il faut pas me mettre dans la bouche que je m'adresse qu'à l'élite, en fait. Je suis en train de dire que le livre est un outil, par essence, élitiste, partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez des activités comme la politique. Il y a des cibles où le livre est le média le plus approprié. Donc il faut le reconnaître en fait. Et puis le reste, ce sont des détails. Le livre coûte cher dans ce pays. Oui, certainement, mais bon, certainement, mais il faut relativiser. Hein. Dans un pays où tous les bars sont pleins tous les jours, dans un pays où les gens sont couverts de bijoux, je sais pas, je crois qu'il y a une question de priorité. Je crois qu'il faut replacer cette problématique dans un ensemble global. Je l'ai dit dans un texte qui a eu d'ailleurs un certain écho, d'un livre collectif que nous avions publié avec Maître Nimi, Mahdi, Ngal Isidore Daywell, Vital Caméré, tout ça, c'est moi qui ai fait l'introduction. Je disais d'ailleurs, il faut replacer tout ça dans une perspective. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous vivons, notre société à nous, une période de crise. Nous ne savons pas où nous allons. Tout est chamboulé. Toutes les valeurs sont à l'envers. Il nous faut retrouver un équilibre, une politique cohérente d'ensemble, où vous verrez que l'éducation, la culture retrouveront leur vraie place. Le livre, c'est l'outil par excellence de la culture et de la science et de l'éducation.
Pouvoir politique et système de communication écrite au Congo Zaïre, du régime colonial à la post-colonie, 1885-1990, essai d'application de la théorie de la bibliologie politique, paru en octobre 2000, est le titre de votre thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication, soutenue sous la direction de Robert Estival à l'université de Paris 7 Denis Diderot. Brièvement, quel résultat avez-vous abouti?
Dans ce travail, l'idée c'était de partir de la naissance de notre pays, c'est-à-dire de manière formelle Léopold II, jusqu'à Mobutu, parce que j'ai quitté ce pays sous Mobutu, parce que justement je ne supportais pas sa dictature. Donc j'ai fait un répertoire des différents systèmes politiques qui se sont succédés, et nous avons développé un concept qu'on appelle de gouvernementalité, c'est-à-dire au fond, comment chaque régime politique a géré la communication, mais la communication au sens large, impliquant même les logiciels de l'éducation. Donc comment chaque régime politique a fonctionné, comment il a mis en place un système de communication. C'était important pour nous de voir, afin d'élaborer une politique de communication, et d'ailleurs ma réflexion actuelle, c'est justement d'élaborer une politique de communication du pays, parce que nous n'en avons pas. C'est pourquoi nous sommes si faibles, c'est pourquoi on nous attaque, même du point de vue des médias, nous sommes faibles, parce que nous n'avons pas une politique de communication.
Alors là, il s'agissait de votre thèse, mais il faut dire que vous voyez le jour, en 1965. Parlez-nous de vos études primaires et secondaires.
Je suis à Kinshasa, clinique Reine-Elisabeth, aujourd'hui André Liema, je crois, puis ma vie est banale, hein. J'ai étudié comme tout le monde.
Dans quelle école? Des études primaires, secondaires?
J'ai étudié à Bobo-Dioulasso, et puis je suis parti à Lubumbashi à 15 ans, 16 ans, où j'ai eu mon diplôme d'état là-bas. J'ai fait mes études à l'IFASIC, j'ai fini, j'ai été retenu assistant, j'ai travaillé pendant 4 ans je crois, comme assistant, et je suis parti faire ma thèse en Belgique et en France.
Vous êtes issu d'une famille de 8 enfants, si je ne me trompe pas.
Vous savez tout ça.
Vous êtes marié et père de 2 enfants, quel genre d'enfant étiez-vous?
Oh, plutôt banal, hein. Je jouais au football et je lisais beaucoup, c'est tout. C'est tout ce que je retiens de mon enfance. Très banal.
Une enfance heureuse.
Ah oui, une enfance heureuse.
Edith Tamboué Bin Kitoko, que signifie votre nom?
Tamboué, ça signifie lion. Donc faites gaffe, je vais essayer de rougir. Je suis à Lyon, en principe. Mon grand-père, dont je porte les noms, a été un chef coutumier. Et je porte son nom, je suis Tamboué Kitenge, je sais pas ce que ça signifie. Bin Kitoko, non, je crois que c'est sans valeur sémantique, hein. C'est le nom de mon père, voilà.
Vous avez plusieurs publications individuelles et collectives à votre actif, citons RD Congo, les élections et après, paru en janvier 2007. Quelle réponse apportez-vous à cette question?
À l'époque, les élections se terminaient, la campagne prenait fin et il y avait une sorte d'effervescence folle dans le pays. Les institutions issues des élections se mettaient en place, donc c'était la Troisième République. Je réfléchis en intellectuel en me disant quel est mon rôle dans cette effervescence. J'ai dit, écoutez, mon rôle c'est de réfléchir. Un intellectuel est payé par la société pour qu'il produise des réflexions. J'ai sélectionné les Congolais les plus en vue dans leur domaine pour qu'ils répondent à cette question, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des élections, mais qu'est-ce qu'on fait après, du point de vue de l'économie? Il y avait 3 analyses, Madi Moulumba, Bakandeja, et puis j'ai voulu un économiste très politique, Vital Caméré, l'actuel président de l'Assemblée nationale. J'ai demandé aux analystes le plus fin de la politique de nous dire c'est quoi, où est-ce qu'on va, vers quel modèle politique, qu'est-ce qu'il faut dans les champs politiques. Et là, j'ai eu des gens aussi connus que Tshiembé, Bioya, du maître Nimi, l'ancien directeur des cabinets de Mobutu. Donc c'était 30 personnes très variées. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a des gens de l'opposition, parce que je vais dire à l'intellectuel, c'est un esprit libre. Moi, je suis un esprit libre, on ne contrôle pas. Donc j'ai fait ces livres-là en mélangeant des gens qui, sans moi, ne se seraient jamais rencontrés. Parce que quelqu'un comme maître Nimi, il est contre le régime actuel. Mais je lui ai dit, tu écris parce que tu es un intellectuel. Vous avez aussi une très belle analyse de Mourou Lanachi, qui est professeur à Louvain, qui est sans doute l'un de mes meilleurs amis, et qui a fait aussi une très belle analyse sur les Grands Lacs, qui a d'ailleurs prévu ce qui se passe aujourd'hui. Donc à l'époque, il était question de ressusciter l'organisation des Grands Lacs. Comment ça s'appelle encore ?
La CPGL.
Il démontre que non, on ne peut pas. On ne peut pas, dans les conditions politiques actuelles, dire qu'on recommence, on fait les Grands Lacs. Donc voilà, donc c'était ça aussi que je lui ai demandé. Il y avait aussi une Daïwell, enfin bref, il y avait de bonnes pointures, il y avait des grands intellectuels congolais qui ont fait leur devoir, qui ont fait leur métier, qui est de dire à la société ce qu'il faut faire.
Rendons-nous à Kamanga, dans la province du Kassai occidental, où le gouverneur de province a procédé le mardi 28 octobre dernier à la cérémonie inaugurale du nouveau bureau de la Bibliothèque nationale, situé dans l'ancien bâtiment de la division provinciale du tourisme. Cette bibliothèque a été réhabilitée avec le financement de la MONUC dans le cadre des projets à impact rapide. Présentation de la bibliothèque avec André Kambala.
C'est par la salle de lecture que l'on accède à cette bibliothèque. D'une dimension de 9 sur 8 mètres, cette salle est dotée de tables et de 40 chaises en bois, mais la capacité finale est de 80 places assises. La porte d'en face mène directement dans la salle d'exposition. Comprise sur 8,5 et 16 mètres, cette salle a la capacité d'accueillir plusieurs rayons d'ouvrages. Mais à ce jour, selon le directeur, sa structure ne dispose que de 7030 volumes, dont les ouvrages, les périodiques et les travaux de fin de cycle. De Pataya Boutibala ajoute que la bibliothèque avait été déplacée de l'avenue Kinkole au site actuel pour raison de sécurité. En dehors de deux salles, la Bibliothèque nationale de Kananga compte aussi deux bureaux. Notons que les travaux de sa réhabilitation effectués par l'entreprise Nuit d'Oiseau ont duré 3 mois. Ils ont connu le financement de la MONUC de l'ordre de plus de 19 000 dollars américains. À la fin de la manifestation, la mission des Nations Unies au Congo a également remis 6 cartons de divers volumes à la nouvelle bibliothèque de Kananga, André Kamba. Voilà, Radio Capi.
Professeur Edith Amboy, comment réagissez-vous à l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque au Kassai occidental? Vous qui avez publié en février 2006 avec Jacques Ellemans, Bibliothèque, Livre, Écrit et Technologie de l'Information et de la Communication en République démocratique du Congo, défi et perspective. Quels sont à votre avis les défis de la bibliothèque en RDC?
Le défi, c'est de retrouver sa vocation naturelle. Je vous ai parlé de la déliquescence générale qui caractérise actuellement notre pays. Une bibliothèque nationale, c'est la mémoire historique du pays. Et sans mémoire, visée au vide, une société sans mémoire, c'est une société qui n'existait pas. Donc, il est question ici de retrouver les fondamentaux. La bibliothèque nationale doit avoir des moyens pour faire son métier, qui est de la sauvegarde de la mémoire collective. Beaucoup de Congolais écrivent, ici et ailleurs. Il faut que toutes ces richesses soient collectées par la Bibliothèque nationale et distribuées au travers des antennes, comme celle de Kananga. Georges Moulumba, qui est le directeur général de la Bibliothèque nationale, fait un grand travail là-dessus. Je le connais personnellement, vous le pensez bien. Nous sommes d'ailleurs collègues également à l'IFACI. Il est en train d'installer concrètement les antennes de la Bibliothèque nationale. Je pense qu'il y en a maintenant 33. Il en installe un peu partout, mais il faut pourvoir. Et d'ailleurs, nous, l'Armatan, nous attendons un conteneur de 50 000 livres pour trouver des accords avec des partenaires comme la Bibliothèque nationale à qui nous pouvons vendre des livres à des bons prix.
Professeur Edith Amboy, nous tendons vers la fin de l'émission. Vous êtes professeur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication à l'IFACI ici à Kinshasa. Je vous invite à suivre ces témoignages de quelques étudiantes de cette institution qui s'expriment sur leurs conditions d'études.
Vous parlez des caméras, dictaphones, c'est plus précisément ceux de journalisme ou alors ceux qui sont encore en première, deuxième, troisième. On a accès à ces matériels, plus seulement c'est un TP qu'on doit faire au studio à l'IFACI. là-dessus, c'est que vous devez aller faire un TP à l'extérieur. Tout ça, franchement, c'est un peu difficile. Il faudra vous en procurer vous-même. On ne peut pas prendre ce qu'il y a à l'institut. Ou soit, vous louez, vous pouvez donner de l'argent comme ça, mais ce n'est pas assez pour tout le monde. Par exemple, les dictaphones, je ne pense pas qu'il y a plus de 5 en tout cas.
Je pense que d'abord, pour un institut de communication, je dirais que nous n'avons pas assez de matériel. Alors, même avec le peu de matériel que nous avons, nous n'avons pas tellement facilement l'accès, sinon c'est juste pendant la session, pendant les examens que nous accédons aux machines. C'est vraiment honteux de le dire, hein, mais c'est à peine une machine pour aller imaginer. Hein, un institut peut contenir combien d'étudiants.
Professeur Edith Tamboué, les conditions de formation des étudiants en communication aujourd'hui, non pas seulement à l'IFESI, mais dans d'autres institutions universitaires, présagent-ils des bons communicateurs pour la RDC demain?
Évidemment non, mais c'est un problème général. Est-ce que les conditions des étudiants qui font le droit sont meilleures? Les conditions des étudiants qui font la médecine sont-elles meilleures? Non, il faut replacer ça dans
le contexte
global. Un contexte global qui est un contexte déliquescent, comme je n'arrête pas de le dire. Nous traversons une crise profonde, et d'ailleurs la grande conclusion de ce livre là que vous avez cité tantôt, RDC, les élections et après, justement la grande bagarre dans ce pays, c'est de retrouver l'État. L'État n'existe plus. Il n'y a pas d'État dans ce pays. L'État, dans ses prérogatives classiques, l'État dans sa fonction de régulateur de la vie nationale. Il faut faire un travail de construction de l'État. C'est pourquoi même nos frontières, nous sommes incapables de les contrôler, parce que l'État ne fait pas son boulot, qui est l'élément central de l'organisation de la vie sociale. Donc voilà. Donc je comprends les préoccupations des étudiants. La grande bataille, c'est de retrouver, de créer l'État. Nous avons un État qui existe formellement, mais factuellement, nous n'avons pas d'État.
Nous avons clôturé cette émission par ce témoignage de quelqu'un qui vous connaît, que nous avons joint au téléphone pour vous.
C'est mon nom Michel Salomoudin Sitoko. Je suis le jeune frère à Edith Tamboué. Pour l'instant, je suis à Essiro. Je suis comptable des grands projets financés par la Banque mondiale, dont la Caritas et la Banque des décisions dont nous faisons partie. Eddie est le cinquième, je suis sixième, donc juste après lui. Moi et lui, on a juste une différence de 2 ou 3 ans. Moi et mon frère, sincèrement, on était très très amis. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime, puisque c'est que je suis, bon, j'ai copié beaucoup de lui. Il aimait beaucoup écrire. Et à 15 ans, 16 ans déjà, il a eu à publier. C'est un monsieur très rigoureux. Hein. Il ne confiait pas n'importe quoi, pas des petites blagues inutiles là. Et on ne s'est bagarré pas. C'est grâce à lui que j'ai assisté au ciné forum, c'est-à-dire après les cinémas, on discute, on parle un peu, c'est-à-dire qu'il y avait un modérateur. C'est lui qui m'a donné ces goûts-là, c'est-à-dire la lecture, les grands livres. Moi j'ai découvert les grands noms surtout. Et lui à 20 ans déjà, c'est un gars qui lisait déjà des grands livres, des grands romans. Et il m'a influencé aussi. Ce que je n'aime pas chez lui, il est trop exigeant. Ah, il est trop exigeant. Et dit, c'est moi ton frère du sexe salon mobile qui t'offre. Alors, vraiment, je te souhaite dire les bonnes choses pendant le moment que tu es à Kiel. Bon, je souhaitais qu'on se voit malheureusement. J'ai un planning très conseil chez Chiro, donc je ne sais pas venir là-bas. Que le Seigneur te bénisse.
Professeur Edith Tamboué, j'ai vu beaucoup d'émotions hein, sur votre visage.
Oui, c'est mon meilleur ami et mon frère.
Et vous avez passé ensemble des très bons moments.
Oui,
là, vous avez perdu les mots.
Non, ça va.
Allez, merci. Dites-lui quelque chose.
Bah, je lui dis mes amitiés et bon courage depuis sa bronze. là-bas. Alors, je suis très touché. Merci beaucoup.
Amor,
Alors, un mot à tous les jeunes Congolais qui vous suivent, en ce qui concerne le livre, en ce qui concerne
la culture. Oui. Bah, pour dire que le pays n'est pas mort, tant qu'il y a des hommes dans un espace, ça signifie que le pays est encore là. L'idée, il faut que chacun se batte dans son domaine. Aux maçons, de bien faire leur boulot. Aux menuisiers, de bien faire leur boulot. Aux intellos, de bien faire leur boulot. Aux dirigeants, de bien faire leur boulot. Surtout aux dirigeants, de bien faire leur boulot. Parce que les dirigeants ont une grande responsabilité. De leurs actes dépend notre vie.
Professeur Edith Tambo, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais le professeur Edith Tambo Bintitoko, directeur de collection aux éditions L'Armatan Paris, et professeur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACIC, à la technique et à la réalisation Eric et Sylvia Kala, à la présentation Alain Héroux. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Dungu dans la province orientale et partout dans le monde.